marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire.
Je vais vous donner une définition, au moins une définition des archives, parce qu'il y en a plusieurs. Sinon, la définition, c'est l'ensemble des documents, quelle que soit leur date, leur forme ou leur support, produit ou reçu par une personne physique ou une personne morale dans l'exercice de leur activité. Donc vous voyez, venir visiter les archives de Surpoix, les archives du chemin de fer ici, on a un fonds documentaire très, 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 très riche.
La voix de l'archiviste du rail malien, Moussa Traoré, enregistrée dans l'immense hangar où il continue jour après jour de venir classer les documents qui racontent l'épopée ferroviaire de son pays, mais aussi l'histoire du Mali avec un grand H. Hommage à son courage dans un pays en guerre, hommage à son professionnalisme dans un pays où les salaires des cheminots ne sont plus payés, hommage à sa volonté de transmettre sa passion aux plus jeunes, à celles et ceux qui n'ont jamais effectué le trajet Dakar-Bamako en train, et pour cause, les trains sont à l'arrêt et les rails, pour la plupart, démantelés. C'est pourquoi nous partons sur les traces du rail et de ses archives, au son du Super Rail Band, l'un des plus grands groupes de musique malienne, né au buffet de la gare de Bamako en 1970.
Ça, c'était le passage des rails. On arrivait les rails. Donc, les marchandises, les poids lourds, là, on amenait ça par train jusqu'au niveau du bateau. Et c'est à partir de cette grille-là qu'on prenait vraiment dans le wagon pour le mettre dans le bateau et afin de les embarquer sur le fleuve.
Mais donc, les grues, en fait, témoignent du passé ferroviaire, de l'époque où le train venait jusqu'ici, là, sur le quai, sur le port. De Koulikoro. Non, on a les chargements qui arrivent. Et là, vous chargez quoi?
Et ça, c'est de l'alcool.
De la bière?
Oui, c'est du bière boisson.
Moussa Traoré, si on cherche les traces des rails, est-ce qu'il y a des vestiges des rails?
Des vestiges des rails, s'il n'y en a plus. On a tout enlevé, on a tout enlevé.
Moussa Traoré, alors on va essayer de retrouver les traces des rails qui devraient nous conduire jusqu'à la gare de Koulikoro.
Rendons-nous à la gare de Koulikoro.
Comment vous reconnaissez la trace du rail?
Bon, honnêtement que moi j'ai passé toute mon enfance à Koulikoro ici. Et c'est ici qu'on débarquait les gens et c'est ici qu'on mettait vraiment des marchandises dans les wagons.
Et en fait, on est à deux pas du marché. Okay. Est-ce que lorsque vous étiez enfant, le marché existait?
Non, le marché était de l'autre côté. Il y avait l'ancien marché. C'est ici qu'on a transféré le marché lorsque les trains ne venaient plus ici.
Donc le marché actuel s'est établi à l'endroit où passait le train?
Où le train, là, ouais, c'est établi là où vraiment le train passe maintenant.
Alors devant nous, c'est un vestige industriel du temps où le train passait ici à Koulikoro. Nous marchons à l'endroit même où se trouvaient les rails du train. Donc c'est une structure qui fait environ 2,50 m, un tuyau de métal qui se recourbe et qui libérait de l'eau.
De l'eau vraiment dans les wagons, dans les moteurs à radiation, comme nous n'avons pas vu vraiment ces trains-là. Mais en ce moment, on passait, il y avait même des morceaux de charbon qui faisaient aussi tourner les locomotives. Donc on les ramassait ici, mais aujourd'hui vraiment tout est parti.
Alors tout est parti, sauf que devant nous, Moussa Traoré, un grand bâtiment d'architecture coloniale. On voit bien d'ailleurs en banco toutes les aérations dans les murs et écrit en toutes lettres Koulikoro.
Koulikoro. Mais seulement maintenant, avec l'absence des trains et d'administration ici, bon, je vois que les bureaux sont loués à des politiciens, à des commerçants, à beaucoup d'entrepreneurs. Nous, à l'enfance, ici, à l'arrivée ou bien au départ d'un train, c'était vraiment de la fête. C'était de la fête. Des marchandises un peu partout. Et puis tout ça, ce sont des magasins qu'on remplissait de mangues. Koulikoro était la première région de mangues au Mali.
Et vous, les enfants, vous arriviez à récupérer quelques mangues qui tombaient des wagons?
Effectivement, effectivement. Et puis des magasins aussi.
Aujourd'hui, nous sommes entourés par les enfants du quartier de la gare et du marché de Koulikoro.
Oui.
Mais eux n'ont jamais vu le spectacle que vous, vous avez vu lorsque vous aviez leur âge, lorsque vous étiez un enfant. Racontez-moi ça.
Bon, vraiment, ça c'est un souvenir inoubliable. Moi-même, j'ai débarqué à Koulikoro le 2 octobre 1976. Je n'avais jamais vu le train. Donc, moi-même, j'étais pressé de voir le train. Et on disait qu'avec une aiguille sur les rails et le train se renversait aussi. Il y avait tout vraiment cette démonstration. Mais ici, c'était la foire même. Au départ du train, c'était une fête. Souvent avec des djemmés, des balafons, avec des marchandises, avec des commerçants, des passagers, même être cheminot, fils de cheminot. Ça aussi, c'était un standing. De Koulikoro à Bamako, en ce moment, c'était 420 francs. Le franc malien, 420 francs, vraiment le frais de transport. À peine 4h, 5h de temps. 4h, 5h de temps. Parce que le train aussi va à une vitesse vraiment très, à un rythme très lent. Ici, c'était les bureaux où on prenait les billets et puis on remplissait les formalités. Et on embarquait, on pesait aussi les marchandises aussi pour connaître le poids des marchandises, pour pouvoir fixer les frais de transport. Ah, ni sokoma. Arrête là. Somogo. Toro si tout là. Ah bah.
Ça va?
Bonjour.
C'est la femme du chef de gare de Koulikoro. Bon, le chef de gare est à Bamako quand même, mais elle aussi, elle a travaillé au chemin de fer aussi. Hein. Pendant 31 ans.
Ah oui.
Elle aussi, elle est intéressante.
Ah, racontez-moi, comment vous vous appelez,
j'ai
madame?
J'ai fait 31 ans de service au chemin de fer. J'étais à la direction du personnel.
Alors ici, nous sommes dans la gare de Koulikoro.
Oui.
Depuis combien de temps cette gare est fermée?
Depuis 82.
1982.
82.
Donc en fait, ici, c'est la... La dernière gare où les trains est passé.
Oui, c'est la dernière gare.
C'est la dernière gare avant Bamako.
Oui, après ici, c'est Bamako.
Et à l'époque, il y avait combien de personnes qui travaillaient dans le rail?
Il y a à peu près 3000 et quelques. Hein. Est-ce que ce n'est pas 3300? Je crois.
Merci pour l'accueil.
D'accord, merci. À toi de même.
Au revoir.
Au revoir.
Merci beaucoup.
Merci.
Je pense que la gare même date de 1916. Parce que j'ai vu dans les titres fonciers de Koulikoro 1916. J'ai cherché vraiment à voir les archives de la gare de Koulikoro. Je n'ai jamais vu d'archives vraiment de Koulikoro. Mais les archives que moi, je traite, que moi, sur lesquelles je travaille, ce sont les archives d'une manière générale du rail, du chemin de fer. Parce qu'il y a beaucoup de directions. Il y a même la direction des installations fixes, les rails, les bâtiments, le personnel, la comptabilité, le marketing, les appros. C'est toutes les directions qui sont représentées à Bamako. Donc moi, vraiment, j'ai ça.
À Bamako.
À Bamako. J'ai ça à Bamako. Ouais, à Bamako.
Il est donc impossible de rallier Bamako avec le train. C'est en voiture que je quitte Koulikoro, ancien port industriel du Mali, d'où partent encore des marchandises par un tout dernier bateau via le fleuve Niger. Le goudron a été refait à l'occasion de la construction du troisième pont qui désengorge l'accès à la capitale. Un trajet que l'archiviste Moussa Traoré s'obstine à effectuer plusieurs fois par semaine pour remplir sa mission aux archives du rail.
Je te dis, on arrive. Oui, ça va.
Comment ça va?
Tout va bien?
Oui, ça va et vous?
Elle est bonne chose, vraiment.
Merci.
Soyez les bienvenus.
Merci.
Ça va?
Les étudiants de Makoter viennent voir votre
archive, les archives.
La caverne d'Ali Baba du rail.
Ça va?
Ça va.
Les jeunes?
Nous
les étudiants? Oui, oui.
Archivistes
ça va?
Du rail.
Tout va bien?
Ça va très bien.
Ah, je suis content de voir des filles, des femmes dedans aussi, hein, c'est ce qui est bien.
Ça va.
Soyez les bienvenus.
Merci.
Oui, oui. Bon, ici, ce sont les archives du chemin de fer. À partir de 1904, que le premier train a sifflé au Mali. Mais moi, les archives les plus anciennes ici, ça date de 1953. Sinon, le reste, c'est au niveau des archives nationales. Bon, comme vous voyez, à droite, ça sont les archives du chemin de fer, la régie du chemin de fer. En bleu, là. En blanc, ça, c'est les archives de Transrail. Donc ça, c'est vraiment l'introduction. Et maintenant, je vais me présenter moi-même. Je m'appelle Moussa Traoré. Je suis historien archéologue de formation, mais archiviste de profession. Parce qu'au moment où j'ai commencé les archives, il n'y avait pas d'école de formation d'archives. Au Mali en particulier, il n'y en avait même pas. On m'a proposé beaucoup de choses, mais vraiment, je tiens à servir les archives. Donc que vous soyez avec nous aujourd'hui, ça c'est vraiment une fête.
Okay. Hein? Ouais.
Donc sur ce, je pense que vous pouvez prendre place. Voilà. Asseyez-vous. Même ici là. C'est quoi ça? Nous cherchons les nouvelles de quoi? Bon, on va devoir partir, peut-être avec une petite présentation. Quel est votre nom?
Moi, c'est Sulemane Koulibaly.
Sulemane Koulibaly, master?
Master 1.
Master 1, Makoter.
Je suis un étudiant professionnel.
Un étudiant.
Enseignant
de formation. Allah, ça quand même, je suis tombé sur le bon bout.
Moi, c'est Aminata Mali. Je suis un master 1.
Il s'appelle Sulemane Koulibaly, Jérémy Dembélé, Aminata Mali ou encore Zohar Abdoudouille. Ils sont les 13 étudiants en master de l'Université du Mali au sein de Makoter. C'est un laboratoire de recherche internationale pour la promotion d'une nouvelle génération d'enseignants-chercheurs, de cadres, d'intellectuels maliens dans un pays où les étudiants ne peuvent poursuivre leurs études au-delà de la licence.
Moi, c'est Alexis Roy, anthropologue, voilà. Et qui donne des cours aussi dans Makoter.
Ophélie Rion, historienne. Il me semble que j'ai rencontré Moussa Traoré en 2010, alors que je faisais mes recherches doctorales sur l'histoire des luttes sociales et politiques au Mali. Et en fait, je me demandais si les cheminots avaient une part dans cette histoire du Mali contemporain, du Mali indépendant. Parce qu'on connaît très bien toute l'histoire des luttes de cheminots à l'époque coloniale, grâce aux travaux d'historiens comme Frédéric Cooper ou grâce au roman de Sem Ben Ousmane, Les bouts de bois de Dieu, voilà, par rapport à la fameuse grève de 1947. Mais voilà, moi je m'intéressais à qu'est-ce qui s'était passé une fois les indépendances advenues pour les cheminots du Mali. Donc j'ai commencé à venir ici, à la gare ferroviaire de Bamako, à la recherche de vieux cheminots qui avaient connu les années 60, 70, 80, pour essayer voilà, de voir avec eux est-ce qu'il y avait des mouvements sociaux à cette période-là. Il s'avère que non, assez peu, mais par contre, j'ai trouvé deux hangars avec une masse d'archives impressionnante, géré par deux archivistes. L'un, Étienne, s'occupait des archives coloniales et le second, Moussa Traoré, s'occupait des archives depuis l'indépendance, donc les archives qui m'intéressaient. En fait, j'ai pas trop travaillé sur ces archives-là, mais j'étais fascinée par ces montagnes de papier et le travail en fait, de titan qu'abattait Moussa Traoré pour essayer de classer ces archives avec très très peu de moyens finalement. Son salaire d'archiviste qui tombait de temps en temps quand même, mais voilà, c'est tout. Il n'avait pas d'ordinateur, il avait très peu de matériaux en fait dont ont besoin les archivistes, et il était entouré par une équipe de jeunes, d'étudiants, de jeunes garçons, de jeunes femmes qui venaient l'aider, lui donner un coup de main dans le cadre de leur formation, de leur stage, voilà. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en 2010, et puis depuis j'ai pris l'habitude de retourner le voir.
Souvent, lorsqu'on pense aux archives du Mali, très souvent, les gens pensent aux archives de Tombouctou.
Tout à fait, il y a les manuscrits de Tombouctou dont on parle beaucoup, et puis récemment on en a aussi beaucoup parlé parce qu'ils ont été mis en danger dans le contexte de la guerre. Mais il n'y a bien entendu pas que les archives de Tombouctou qui sont en danger d'ailleurs. Les archives sont en danger en permanence avec les aléas du temps, les intempéries, l'absence de politique vraiment volontaire.
Et de quelle façon vous initiez en fait vos étudiants à l'archive, qui peut servir aux historiens, mais aussi aux anthropologues, aux économistes, et à tous ceux finalement qui veulent faire des recherches sur soit la société malienne, soit l'histoire du Mali?
Les étudiants de Makoter en fait ne sont pas historiens, ne sont pas dans une formation d'histoire, c'est des sociologues, des anthropologues, des juristes, des littéraires. Mais il me semblait important qu'ils aient une formation de sensibilisation à l'approche archivistique et à l'approche historique dans le cadre de leurs recherches. Donc je leur ai proposé un cours autour des archives militantes, où dans ce cours on discute à la fois des différents types d'archives, archives écrites, archives sonores, archives visuelles, et aussi un cours où on parle bien entendu des luttes sociales et politiques en Afrique, pas seulement au Mali. Et c'est comme ça que j'ai souhaité que les 13 étudiants maliens du master de Makoter puissent rencontrer Moussa Traoré, l'archiviste du rail.
Je vais vous donner une définition, au moins une définition des archives, parce qu'il y en a plusieurs. Sinon, la définition qui date de 1979, qui est la toute dernière, c'est l'ensemble des documents, quelle que soit leur date, leur forme ou leur support, produit ou reçu par une personne physique ou une personne morale dans l'exercice de leur activité. Donc vous voyez, venir visiter les archives de Surpa, les archives du chemin de fer, ici, on a un fond documentaire très, 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 très riche. Ce n'est pas pour rien que les étrangers viennent voir ici. Il y a même leur histoire dedans. Il y a l'histoire coloniale. Il y a surtout l'anthropologie, la vie sur les rails. C'est vraiment éducatif. Ça va vous renforcer vraiment dans vos études. C'est bien. Moi, j'ai la liste des titres fonciers des gares de 1898 à 1927. Hein. La gare, là, ça a été construit en 1924 avec les Samori Kelegedeon. Hein. Ça date de 1924. Même l'autre jour, là, ils ont vu ici l'ordonnance 62 bis portant création de la régie autonome du chemin de fer du Mali. Ça, c'était au temps de Modibo Keïta. Donc, vous voyez, ça, c'est les prémices vraiment de notre indépendance, ce que nous-mêmes, nous avons hérité de façon coloniale et ce que nous avons créé et ce que nous avons mis vraiment la main sur là-dessus. Donc, tout ceci-là, c'est dans les archives. Comment j'ai travaillé ici? Depuis que je suis là jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai jamais eu une nouvelle table, je n'ai jamais eu un nouveau fauteuil. Aucun de mes chefs n'est venu rendre visite vraiment à ces archives. Quand même, nous sommes là. Ça, c'est notre combat aussi. Ça, c'est notre combat. Est-ce que vous avez compris ça? Je vais vraiment vous faire aller sur ça. Sinon, chez nous, ici, là.
Et on m'a raconté une histoire. Il paraît qu'il y a un train qui venait du Sénégal et qu'il y avait de la pluie ces jours-là. Et que le rail était un peu dérangé, je crois. Et qu'un paysan avait vu qu'il y a un problème. Il a couru, il est venu informer la direction des rails qu'il y a un problème. Pour remercier le monsieur, il paraît qu'il a été embauché ici au rail. Est-ce que cette histoire-là est vraie? Si oui, est-ce qu'elle est archivée?
Oui, oui. Moi-même, j'ai fait tout un document autour de ça. C'est le jeune Sidi Sissoko. Il est encore vraiment avec les mécaniciens. Il est là, Sidi. Je l'ai même demandé comment ça s'est passé. J'ai pris tous les renseignements et j'en ai fait un document. Et c'est dans le document historique. Vous vous dites un paysan, ce n'était pas un paysan. Son père était un chef de canton. Donc, il était dans les rails. Donc, la pluie avait emporté une partie du rail. C'est un train plein de passagers qui arrivait. Donc, le jeune Sidi était très, très jeune. On l'a délégué vraiment. Il faut informer que le train ne peut pas passer. Il a couru, à peine il arrive, à la gare, le train venait de faire son décollage. Il a fait toutes sortes de gestes pour dire que le train ne passe pas tout autour. Le train sifflait tout autour. Finalement, il dit que lui, il a fermé les yeux. Il dit que bon, il faut monter sur moi. Je dis qu'il ne faut pas partir. Sensiblement que le train s'est arrêté. On dit que c'est un fou. Il dit qu'il n'est pas fou. Il dit que le train ne peut pas aller.
Allez.
C'est comme ça qu'il a été recruté comme ça. Il est avec nous ici. Il est avec nous ici. Il est là, c'est Sidi Sissoko. Voilà, vous voyez, le jeune Sidi Sissoko, conducteur, c'est dans la boîte 969.
Toi, tu arrives ici, tu as, parce que ce n'était pas classé comme c'est aujourd'hui, tu as une masse de documents devant toi. Ça, il faut essayer d'expliquer peut-être un peu cette démarche où là, il y a vraiment une initiative à prendre.
Il ne faut pas que deux fonds d'archives se mélangent. Ici, au niveau des rails ici, les archives de la direction des ressources humaines, il ne faut jamais que ça se mélange avec les archives de la comptabilité, de la direction de la comptabilité. Donc, quand les archives de la DRH arrivent ici, je fais tout pour les conserver à côté. La comptabilité ici, le service commercial ici, les approvisionnements généraux ici, les mécaniques ici. Donc, je classe. Donc, après le classement, on se retrouve dans ça, avec le répertoire. C'est ce qui favorise aussi les recherches.
Moussa Traoré tient son public en haleine, dans la chaleur et la poussière de l'immense hangar où il classe les archives du rail. C'est là qu'il inscrit patiemment au sein des répertoires les références des milliers de documents qu'il continue à classer. Des archives du Mali qui sont des sources pour les étudiants, mais aussi pour leurs professeurs, comme l'anthropologue Alexis Roy.
Ce qui m'intéresse dans cette histoire du rail, qui a déjà plus de 100 ans, c'est comment s'est constitué tout autour de la vie du rail et de l'entreprise ferroviaire, une histoire du salariat en Afrique de l'Ouest et des cultures professionnelles autour du rail. Et on sait que la question du cheminot, hein, partout à travers le monde, crée une identité professionnelle assez forte. Et il y a effectivement ici une longue histoire déjà, donc sur plusieurs générations, de cheminots, d'un métier qui s'est parfois transmis en plus de père en fils. On peut retracer aussi, d'une certaine manière, une histoire du Soudan français et de l'actuel Mali au XXe siècle, aussi, pourquoi pas, à travers l'histoire d'une entreprise, comme cette entreprise ferroviaire, une histoire qui va du statut de salarié dans un contexte colonial, puis de l'État indépendant, et enfin, plus récemment, dans un contexte de privatisation du réseau ferré.
Un réseau ferroviaire qui, à nouveau, a été nationalisé, Alexis Roy.
Oui, alors il a été renationalisé en 2016, après une période qui a été marquée donc, par une privatisation au préalable, en 2003, avec des licenciements conséquents, à peu près 600 personnes qui ont été licenciées à cette période, et une reprise donc par un gestionnaire canadien d'abord, puis sénégalais par la suite. Mais alors l'entreprise s'est progressivement concentrée sur le fret, en abandonnant le transport de voyageurs, ce qui fait que beaucoup de gares ont fermé, en créant évidemment beaucoup de mécontentement, puisqu'il y a toute une vie évidemment autour des gares, tout le long de cette voie de chemin de fer.
Donc les gares qui ont fermé sont par exemple les gares de Kouligourou, la gare ici de Bamako, là on voit autour de nous les trains qui sont à l'arrêt hein, sur les rails.
Depuis la privatisation, on peut dire que les choses ont été en se dégradant depuis 2003, et à tel point qu'en 2016, les États maliens et sénégalais ont mis fin au contrat de concession et ont récupéré temporairement la gestion du rail. Donc ça s'appelle désormais Dakar-Bamako-Ferroviaire. Alors le train, semble-t-il, fonctionne encore en ce moment du côté sénégalais, mais comme on peut le voir en ce moment ici même à la gare de Bamako, un des trains est à l'arrêt à quai et il n'y a plus d'activité réelle autour de la gare. Tous les salariés sont en attente d'une reprise de l'activité et c'est aussi tout simplement en attente de paiement, de salaire, puisque depuis plusieurs mois ils sont sans salaire et on est un petit peu dans une phase d'incertitude, sachant qu'ils sont en attente de nouveaux investissements.
Et donc, Alexis Roy, cela signifie aussi que Moussa Traoré, que l'on retrouve tout de suite dans son exposé de son métier aux étudiants de Makotar, il est là finalement parce qu'il y croit, parce qu'il n'est pas payé là.
Oui, alors on voit que Moussa Traoré, c'est un sacerdoce pour lui, hein, cette activité. On sent une très forte motivation chez lui. Il fait un métier, il faut le dire, difficile, parfois un peu ingrat. Les gens ne sont pas sensibilisés à l'importance de l'archive, en particulier dans un contexte de crise où il n'est pas nécessairement évident pour tout le monde de prioriser la question des archives quand la situation est à l'arrêt, que tout le monde est au chômage technique, que les employés ne touchent plus leur salaire. La priorité semble parfois être ailleurs.
C'est une sacrée chance pour les étudiants, d'ailleurs, ils ont l'air très contents.
Voilà, et c'est effectivement, on a vu que les étudiants étaient, qui ne sont pas forcément très sensibles non plus à la question des archives, mais en fait, dès qu'ils y sont confrontés, on voit que ça suscite un intérêt réel chez eux, et ça fait plaisir à voir pour nous, enseignants.
J'ai une dernière question. Vous avez parlé de différents types d'archives. Est-ce que ces différents types d'archives que vous avez cités, on peut les retrouver ici? Ceux de
Ray-Ban, non. Mais eux, ils ont parlé du buffet hôtel de la gare. Son plan, les bâtiments pour la construction des ports au temps colonial, c'est ce que j'ai dans les documents du domaine ferroviaire. Bon, Ray-Ban, non. En disant cela, vous venez de nous appuyer aussi? Nous aussi, nous allons lancer des recherches par rapport à ça.
Le train, le groupe Super Ray-Ban, surtout.
Oui.
Alors, si je viens et les archives, je ne savais pas que ça existait ici.
Oui.
Maintenant, s'il y en a, donc je dois pouvoir voir au moins des éléments sur ce groupe-là. En termes de photos, en termes d'images, tout ce que vous voulez. Quoi.
Bon, en termes de photos, peut-être en fouillant dans certains documents. Une minute là, en fouillant dans certains documents. Et à Ray-Ban aussi, il faut le savoir, je pense la plupart du temps c'était au temps de Modibo Keïta. Alors que le Mali sous Modibo Keïta, beaucoup de nos images étaient gardées en ex-Yougoslavie.
Pourquoi ?
C'était le socialisme, alors que tout le monde sait que l'ex-Yougoslavie a sauté en éclat. Il y a ça, vous voyez, donc il y a beaucoup de choses au Mali qui sont cachées. Peut-être quelqu'un d'entre vous aussi va avoir le goût de faire des recherches dans certains domaines. C'est ce qui fait la force d'une nation.
Ben merci beaucoup Moussa Traoré pour votre accueil, pour vos histoires que vous nous avez racontées sur votre expérience. Et j'espère en effet que cela donnera le goût de venir vous voir et de travailler dans les archives du Rail ou d'ailleurs. Voilà, pour écrire l'histoire du Mali sous toutes ses formes. Merci beaucoup.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Tandis que les étudiants de Makoter prennent déjà rendez-vous avec Moussa Traoré pour revenir enquêter dans les archives du Rail, je me demande comment retrouver des traces du Super Rail Band, le groupe mythique du buffet de la gare de Bamako. Au fil des discussions, c'est le nom du réalisateur de documentaire Mustapha Diallo qui s'impose. Il serait l'auteur d'un film sur les grands orchestres maliens des indépendances. Djanjo.
Djanjo, ça veut dire rendre hommage en bambana. Donc Djanjo, c'est un documentaire qui parle de la musique moderne malienne de 1960 à 70, comment la musique malienne a été créée par les politiciens de l'époque, comment la jeunesse malienne a été en train d'évoluer dans cette musique qui est jusqu'à présent l'identité culturelle moderne du Mali.
Et Mustapha Diallo, dans votre film, vous revenez justement sur les grands orchestres qui sont nés juste après l'indépendance. Et autour de nous, dans votre salle de montage, il y a des documents absolument incroyables. Il y a des vinyles du Rail Band de Bamako. Et je vois même sur cette pochette un saxophone en couleur orange sur fond bleu. Et dans cette même pièce, je vois aussi un saxophone, alors que je sais qu'au Mali, aujourd'hui, plus personne ne joue du saxophone.
C'est vrai. Donc ça fait partie d'une mémoire que je dois refaire vivre parce que le saxo fait partie intégrale de la musique malienne.
Comment vous expliquez, Mustapha Diallo, que Tidiane connaît le saxophoniste et envie de créer un orchestre au buffet de la gare de Bamako, pourquoi elle choisit cet endroit-là?
Parce que déjà, les rails, c'est-à-dire la gare, c'était le point d'attraction de Bamako. Quand le train venait, il y avait les acheteurs, il y avait des voyageurs, il y avait des personnes qui faisaient transit. Et le buffet hôtel était un endroit mythique. Et c'est là-bas que les gens se retrouvaient pour prendre un petit pot, discuter, ainsi de suite. Donc c'est un pôle d'attraction incontournable. Et je pense qu'à cette époque, les orchestres existants dans tous les quartiers, c'était normal que le Rai Band soit créé dans cette atmosphère. Il y avait beaucoup de jeunes qui venaient, il y avait des surprises parties, il y avait les pâtes Badef, il y avait... La jeunesse voulait s'amuser, mais s'amuser avec leur sonorité.
Je vois autour de vous une très belle collection de vinyles. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez trouvé ces disques?
D'abord, l'histoire de ces disques, c'est une histoire d'amour. Moi, j'ai grandi avec la cafetière du papa qui sonnait le matin, avec une musique jouée dans les vinyles du Mali des années 70 et 60. Et j'ai ça en mémoire, comme un film qui était imbibé dans ma mémoire. Et lorsque j'ai commencé à prendre le l'envol, je me suis dit, il va falloir sauvegarder ce pan du patrimoine malien. Il y a eu, de 1960 jusqu'en 68, il n'y a pas eu de vinyle imprimé, sauf quelques vinyles qui ont été imprimés en Côte d'Ivoire, de musiciens maliens qui étaient Koni Koumaré et Sori Bamba, du Kanaga de Mopti. Donc, à partir des années 60, on a eu l'avènement des vinyles. Le premier vinyle qui a été pressé au niveau du Mali, c'était plutôt une anthologie de la musique malienne. Après l'anthologie de la musique malienne, il y a eu la musique des savanes, la musique des steppes, ainsi de suite. Il y avait ce patriotisme des dirigeants de l'époque de pouvoir faire écouter de la musique malienne aux Maliens qui sont à l'extérieur. Donc, étant donné qu'on avait cette envie de garder la musique sur vinyle, on a effectivement eu cette chance d'avoir une collection au niveau du Mali qui était très intéressante. Me poser la question comment je me suis procuré les vinyles, c'est une question de traverser le désert. Parce que d'autant plus, nous les Africains, on garde la tradition orale, on a du mal à garder les archives. D'ailleurs, il y a une anecdote qui dit, mais toi tu gardes les vinyles, là, tu es comme les Blancs là. Hein? Tu fais comme les Blancs. J'ai dit non, je ne fais pas comme les Blancs. C'est parce que c'est une histoire qui est en train de se perdre. Et cette histoire, si on ne prend pas garde, c'est ces Occidentaux qui vont venir nous reprendre notre histoire, nous renseigner notre histoire et nous l'enseigner.
Et vous avez ici chez vous un tourne-disque qui permet justement de faire jouer les vinyles. Alors on peut peut-être s'écouter un petit bout, un petit morceau.
Oui, bien sûr. Ce morceau que je suis en train de mettre s'appelle Djoba. Ça, c'est Mori Kanté dans ses débuts au Rai Band. Donc, ce morceau parle de la parole. Ma
La voix de Mori Conté sur ce vinyle, un des premiers vinyles du Ray Band, créé au buffet de la gare de Bamako, ici au Mali. Moustapha Diallo, on est en quelle année? Qui sont un peu ces jeunes musiciens qui inventent cette nouvelle musique?
Parmi les membres fondateurs, on a Tiziane Koné, on a Mamoutou Diakité, on a Patieko, on a Djibril Diallo qui était administrateur de Ray Band et en même temps directeur de la gare.
Donc ça veut dire que le directeur de la gare à l'époque, le chef de gare, il est aussi musicien dans le Ray Band?
Non, il n'était pas musicien, mais c'était un mélomane. Donc à l'époque, on aimait la musique. Tout le monde aimait la musique. Donc vous avez dû remarquer que la musique que le Ray Band produisait, c'était un peu le funk, mais à l'africaine.
À l'époque, Moustapha Diallo, qui est-ce qui édite ces vinyles?
Les premiers vinyles ont été édités par la librairie populaire du Mali. Par exemple, vous voyez que sur la première pochette du Ray Band, le premier disque du Ray Band, qui est un classique, on voit le jeune cheminot avec sa clé et qui saute sur les rails. Donc ça montre déjà la couleur de l'appartenance de Ray Band au buffet hôtel de la gare et même à la société de Ray.
Sur ces pochettes, on voit marqué buffet hôtel de la gare Bamako, Ray Band. Et là, vous avez encadré la pochette de ce qu'on appelait un 45 tours avec sa face A et sa face B. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette pochette et ce qu'elle évoque pour vous?
Cette pochette est considérée comme le classique du Ray Band. C'est le premier vinyle que le Ray Band a édité. Cela montre que le Ray Band avait déjà l'idée de pouvoir presser quelque chose et graver dans la musique. Donc pour moi, ça a une valeur sentimentale. Je ne pourrais pas décrire tout ce qui me traverse en gardant ce genre de vinyle chez moi. Donc c'est précieux pour moi, c'est précieux pour les Maliens, c'est précieux pour les mélomanes maliens et musicales.
Et non seulement Moustapha Diallo, vous collectionnez des vinyles des groupes maliens des années 70, notamment le Ray Band, mais aussi vous avez ici, dans votre maison, un saxophone rutilant.
Oui, parce que cet instrument, ça fait partie des premiers instruments que la RDA a donné au Mali.
Donc l'ancienne Allemagne de l'Est.
Oui, l'ancienne Allemagne de l'Est. Et ce saxophone a joué à l'indépendance du Mali. Lorsque la fédération malienne a éclaté, ce saxophone a joué à l'arrivée de Modibo Keïta.
Donc, non.
Si, j'ai les photos. Donc, pour moi, c'est un saxophone qui ne doit pas rester dans l'oubli.
Et qui ne doit pas non plus rester dans son étui. Vous allez nous jouer quelque chose là.
Yeah! Non. Quelques notes. Qu'est-ce que je peux jouer? Je baragouine.
Les premières notes de l'hymne malien, non.
Non, ça c'est trop fort pour moi là. Non, je suis en train d'apprendre le saxo. C'est pour ça qu'avec Tristan, on se retrouve en train de...
Quoi, les objets aussi peuvent raconter des histoires.
Tout à fait. Ça, c'est le saxo qui a été joué par le premier chef d'orchestre qui s'appelait Panka Dambélé. Panka Dambélé, c'était le premier chef d'orchestre qui a créé le premier groupe du Mali. Et le groupe s'appelait Ambiance Jazz. Ambiance Jazz, c'était en 1945, s'il vous plaît. C'était pas, à l'époque, on ne jouait pas la musique malienne en tant que telle. on était dans la musique, les reprises des musiques occidentales, ainsi de suite. On ne pouvait pas jouer Djanjoba, on ne pouvait pas jouer Keller, c'était interdit. Donc c'est à partir des années 60, quand on a eu les premiers groupes, que Modibo Keïta a dit, bon, les gars, on va jouer notre tradition avec la musique moderne. C'est comme ça que les gens sont rentrés encore en salle et ils ont été bercés par le nationalisme pour dire, bon, voilà, maintenant je prends le saxo, je vais essayer de jouer le badjuru avec le saxo. Je ne vais plus essayer de jouer Mozart, Beethoven et autres. On va essayer de prendre la musique de Bazoumana, qui fait partie des classiques maliens d'ailleurs. Parce que tous les Maliens se retrouvent dans la musique de Bazoumana. Mais comment jouer la musique de Bazoumana avec des instruments modernes? Et c'est comme ça que la musique moderne malienne a eu ses bribes, est née. L'album a été imprimé ou enregistré dans les années 70. C'est le deuxième volume de Rai Band et cela rend hommage à Sundiata, le fondateur de l'Empire du Mandé.
Moustapha Diallo, vous êtes réalisateur de films. Non seulement vous avez fait un film sur les grands orchestres maliens de cette époque, mais vous vous êtes aussi intéressé à cette histoire du raï. Est-ce que c'est difficile ici au Mali, en tant que réalisateur, d'avoir accès aux sources pour pouvoir faire un film sur l'histoire du raï, justement?
Les archives que je recherche, c'est d'abord pendant la colonisation. Ça veut dire quoi? De quelle année à quelle année il y a eu les premiers travaux forcés pour construire le rail? Et quel était le premier train qui est arrivé à Bamako? Et quelle était l'importance ou la faveur des indigènes de l'époque par rapport au chemin de fer? Parce qu'ils appelaient ça Negesra, la route du fer. Mais parallèlement à ça, j'ai interviewé les anciens qui pouvaient être interviewés.
Comment les avez-vous retrouvés?
J'ai cherché, j'ai demandé, j'ai dit, mais est-ce qu'il y a des anciens cheminots ici?
J'ai commencé par Kati, après Kai, Bamako.
Sur toute la ligne du chemin de fer.
J'ai essayé, mais c'était plutôt Kai qui était un peu la prédilection, parce que Kai, c'était l'histoire de pourquoi quand un enfant venait au monde, on souhaitait qu'il soit chez Mino. C'était la question que je me suis posée. Kai, c'est le chemin de fer. Les cheminots étaient à part entière de la compagnie du chemin de fer. Donc c'était là le questionnement que je m'étais posé, à savoir mais pourquoi le rail était important pour les Kaïsiens.
Et quelle réponse avez-vous trouvée?
Tous les employés du rail étaient Kaïsiens et le train venait avec de la marchandise de Dakar et prenait de la marchandise de Bamako pour donner à Kai. Kai est enclavé. C'est le train qui permettait à certains villages, à certaines populations de Kai, de survivre avant l'avènement des grandes routes. C'était vital, le train.
Ce qui me frappe, Mustapha Diallo, en découvrant votre œuvre, vos films, en découvrant votre passion pour les vinyles, votre collection de vinyles, en découvrant cet objet, ce saxophone qui était là pour l'indépendance du Mali. Il y a vos appareils photographiques, il y a des salles entières avec des cassettes. Mais vous-même, vous êtes un archiviste, vous produisez de l'archive, non?
Oui, bien sûr que je produis des archives. Parce que tout ce que je fais, j'archive aussi.
Quel type d'archives vous avez?
Je m'intéresse particulièrement à l'histoire, à la musique, à l'environnement. J'ai des archives de photos, des archives de films, parce que depuis une vingtaine d'années, je filme en Bamako, le Mali.
Vous faites finalement une entreprise de sauvetage d'intérêt public?
Oui, c'est vrai, je fais l'archivage pour l'intérêt public, mais c'est intéressant aussi pour moi en tant que documentaliste de pouvoir raconter ma ville. Ça veut dire que quelque part, il faut que quelqu'un puisse s'occuper de ça. Il y a les archives nationales, il y a des institutions qui essaient d'archiver, mais parallèlement aussi, il faut qu'il y ait des indépendants qui ont leur façon de voir, qui n'ont aucune pression de qui que ce soit, de dire bah, « tu devais archiver comme ça, tu devais archiver comme ça ». On n'a pas besoin d'un ordre pour archiver la mémoire de son quartier. Il faut qu'on soit quelqu'un de sensé pour comprendre que les archives, c'est notre histoire.
Ainsi s'achève Mali Rail, archives et vinyle, un épisode de La Marche du Monde signé Valérie Nivelon et réalisé par Sophie Janin. Un grand merci à l'historienne Ophélie Rillon, à l'anthropologue Alexis Roy, à tous les étudiants de Makoter, ainsi qu'à l'archiviste Moussa Traoré et au réalisateur Mustapha Diallo pour leur générosité. N'hésitez pas à réagir sur notre page internet et Facebook où vous trouverez de nombreuses photos. Écrivez-nous, podcastez. Cette émission, c'est la vôtre.